Après le baccalauréat, grâce à un ami de mon père, j'aurais pu continuer mes études dans une école recherchée. Mais après réflexion, j'ai changé d'avis et décidé de faire mon service militaire immédiatement. Seulement, je ne savais pas trop comment annoncer cette nouvelle à cette personne qui m'avait pistonné. Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai dit franchement ce qu'il en était. À ma grande surprise, il n'a pas été déçu. Le moins du monde, et m'a dit « Ne t'en fais pas, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. » C'est un peu cru, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Les êtres humains sont de vraies girouettes, des caméléons qui modifient leurs pas de danse pour un oui et pour un non. On ne peut jamais être vraiment certain de quoi que ce soit. Mais avec Dieu, c'est différent parce qu'il n'a pas de saut d'humeur et ne change pas d'opinion. Les Écritures enseignent que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Je suis l'Éternel, je ne change pas. Fin de citation. En fait, il n'existe pas de raison pour laquelle Dieu pourrait changer d'avis puisqu'il connaît le début et la fin de toute chose. Par un prophète, il déclare « J'ai annoncé depuis longtemps les choses du passé, j'en ai parlé, je les ai fait entendre, puis soudain j'ai agi et cela s'est produit. » Tout ce qui est en train de se passer dans le monde en ce moment même et tout ce qui aura lieu ce soir, demain ou dans 10 ans, tout ce que chaque être humain vit et ressent durant toute son existence, tout ce que les animaux et les plus petits organismes font, à chaque instant, est connu d'avance par Dieu. Il sait tout et il ordonne tout. Le roi David écrit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Lorsque le roi assyrien a envahi Juda, le roi Ézéchias a prié l'Éternel. Alors Ésaïe envoya à Ézéchias le message suivant. Voici ce que déclare l'Éternel au sujet du roi d'Assyrie. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, grâce à mes nombreux chars, moi j'ai gravi les sommets des montagnes, j'ai pénétré jusqu'au cœur du Liban pour y couper les cèdres les plus hauts et les plus beaux cyprès et parvenir jusqu'au dernier sommet dans la forêt la plus touffue. J'ai fait creuser des puits et j'ai bu l'eau de pays étrangers. J'ai asséché sous les pas de mes troupes tout le delta du Nil. Mais ne sais-tu donc pas que moi, j'ai décidé depuis longtemps tous ces événements et que depuis les temps anciens, j'en ai formé le plan? À présent, j'accomplis ce que j'ai résolu et ainsi je t'ai amené à réduire en monceau de ruines des villes fortifiées. Mais moi, je sais quand tu t'assis, quand tu sors, quand tu rentres, quand tu t'emportes contre moi. Oui, tu t'emportes contre moi. Tes discours arrogants sont parvenus à mes oreilles. C'est pourquoi je te passerai mon anneau dans le nez et je te riverai mon mors entre les lèvres. Puis je te ferai retourner par où tu es venu. » Fin de citation. Dieu sait tout, surtout à tout moment. Et l'avenir est un livre ouvert devant lui. Changer d'avis, pour lui, n'aurait donc aucun sens. Maintenant qu'on a fait le tour de cette question, on peut passer à autre chose. Pas si vite. Quand Moïse était sur le mont Sinaï en train de recevoir les tables de la loi, le peuple hébreu restait dans la vallée à organiser une immense partouze. Je lis la suite. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Suite à cette déclaration, Moïse monte au créneau et tente de faire plier l'Éternel en lui exposant les raisons pour lesquelles il devrait changer d'avis, et il y réussit. Le texte dit littéralement « Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Quand Moïse argumentait avec l'Éternel, Dieu s'est comporté comme s'il épousait le point de vue de son serviteur et s'est laissé convaincre. Mais en réalité, sa menace contre Israël était seulement destinée à susciter une réaction de la part de Moïse, et il l'a eue. Moïse a défendu l'honneur de Dieu et lui a rappelé les promesses qu'il avait faites aux ancêtres du peuple coupable. Ici, ce ne sont pas les Israélites qui ont changé, mais Moïse, leur porte-parole, qui a joué son rôle de médiateur. Quand il s'est interposé, Dieu a plié parce qu'il respectait la fonction qu'il avait lui-même assignée à Moïse, celle d'intercesseur. Si l'Éternel avait vraiment voulu consumer le peuple, comme il le dit à Moïse, il l'aurait fait, un point, c'est tout. Mais Dieu choisit toujours de coopérer avec les hommes qu'il choisit. Ce fut aussi le cas avec Abraham concernant le jugement de Sodome. Cette histoire commence par une petite phrase qui dit « Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel ». Plus tard, cette ville ainsi que les autres de la vallée, ayant mis le comble à leur péché, Dieu décida d'intervenir. Il aurait alors pu embraser ces villes et l'affaire était conclue. Mais il a choisi une toute autre course d'action. Il est allé voir Abraham et le texte nous révèle ses réflexions. Il s'est dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Il deviendra l'ancêtre d'une grande et puissante nation et une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Car je l'ai choisi pour qu'il prescrive à ses descendants et à tous les siens après lui de faire la volonté de l'Éternel en faisant ce qui est juste et droit. Ainsi j'accomplirai les promesses que je lui ai faites. Alors l'Éternel dit à Abraham, de graves accusations contre Sodome et Gomorre sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Dieu semble avoir décidé de juger ces villes, mais les dés ne sont pas encore jetés. Parce qu'il a choisi Abraham comme son représentant sur terre, il lui donne le pouvoir d'intercéder en faveur de Sodome et Gomorre, tout comme Moïse le fera plus tard pour le peuple d'Israël. Abraham se lance donc dans une longue argumentation où il demande à l'Éternel d'épargner ses villes s'il s'y trouve 10 personnes justes, un nombre choisi par Abraham, et Dieu accepte. On connaît la suite. Il n'y avait pas 10 justes et ses villes furent réduites en cendres. Ici encore, on est en droit de se poser la question. Dieu peut-il se laisser fléchir comme un simple homme? À cette question, on est obligé de donner une réponse de Normand. Oui et non. J'aimerais bien pouvoir vivre dans un monde où je pourrais tout ranger dans 2 casiers, un noir et l'autre blanc. Mais il arrive souvent que cette vision dualiste des choses ne colle pas avec la réalité, et je suis alors obligé de placer les réponses aux questions épineuses dans un fourre-tout de couleur grise. La volonté de Dieu a 3 niveaux. Il y a ses décrets qui se situent au niveau du 3e ciel et qui chapeautent les 2 autres niveaux. Les décrets s'appliquent de manière irrévocable. C'est ainsi que Dieu avait décrété qu'il ne consumerait pas son peuple et qu'il anéantirait Sodome et les autres villes maudites de la vallée. Enfin, il y a la volonté de Dieu sur terre, où il est en interaction avec des hommes, comme Abraham, Moïse ou Jonas. Cette volonté peut changer en fonction du comportement humain. Dieu voulait que Moïse et Abraham intercèdent, et il a accepté leur requête. Mais il y a ce que Dieu veut et ce qu'il laisse faire. Au tout début de l'histoire de Jonas, Dieu désirait que son prophète aille prêcher à Ninive, mais ce dernier a refusé et s'est embarqué pour l'Espagne. Dieu ne voulait pas cela, mais il l'a laissé faire. Il lui a permis de désobéir. Il faut cependant savoir que l'acte rebelle de Jonas avait été décrété par Dieu. Oui, je sais que c'est choquant. Je préférerais ne pas dire des choses pareilles. Mais il n'y a pas d'autre possibilité si on admet en postulat que Dieu est absolument souverain sur son univers. L'Éternel qui renonce, qui change d'avis, qui se repent, est une façon de parler anthropomorphique, c'est-à-dire que certaines caractéristiques humaines lui sont attribuées et il est décrit comme s'il était un être humain, un homme. Par exemple, un texte dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Est-ce que cette phrase signifie que Dieu a des yeux comme vous et moi? Et s'il en a, sont-ils bleus, gris ou verts? Bien sûr que non. Comme Dieu est esprit, il ne possède pas un corps. Cependant, celui qui a créé les yeux peut voir, et il voit tout. Il existe beaucoup d'autres exemples de traits humains appliqués à Dieu. Ainsi, Moïse dit que l'Éternel a combattu pour Israël à main forte et à bras étendus. Et le roi David écrit, « L'étendue céleste publie l'œuvre des mains de Dieu. » Pourtant, le Créateur n'a ni main ni bras puisqu'il est esprit. Dans les Écritures, il est souvent fait mention de la colère de l'Éternel qui s'enflamme. C'est vrai, mais Dieu ne se fâche pas comme moi pour des enfantillages. Sa colère est sainte, dépourvue des tares humaines et dirigée contre l'injustice, contre ceux qui font le mal. Mais il se contient, car il ne veut pas que le méchant périsse, mais qu'il se repente et vive. Le dernier sentiment de Dieu que je veux citer est souvent mentionné par l'apôtre Jean qui écrit « Dieu est amour ». Dieu se repent, mais pas comme un être humain. Si moi je me rends compte que j'ai mal agi, je le reconnais, je le confesse à Dieu et je prends la résolution de ne pas recommencer. Mais Dieu ne se repent pas de cette manière, car il ne change jamais d'avis. Il ne s'est pas dit « j'avais l'intention de détruire Ninive, mais tout compte fait, ce n'était pas une bonne idée. Alors je vais m'abstenir. » Quand Jonas a commencé à déclarer que Ninive serait détruite, il donnait à ses habitants le choix entre deux options. D'une part, ils pouvaient se moquer du prophète, ignorer son message et même lui couper la tête. Mais dans ce cas, l'Éternel les aurait exterminés. Dieu n'a jamais changé d'avis sur ce point-là. Mais d'autre part, les habitants de Ninive avaient la possibilité de croire Jonas et de s'humilier devant l'Éternel. Alors, ils renonceraient à les juger. Cela a toujours été l'intention de Dieu. Quand les gens rejettent Dieu, il les punit pour leurs fautes. Mais s'ils courbent les chines devant lui, il leur pardonne. C'est très simple et c'est toujours comme ça. Dieu ne change pas d'avis d'un jour à l'autre. L'Éternel a menacé les habitants de Ninive de les exterminer, mais comme ils se sont repentis, il a renoncé à son jugement. Dieu n'a fait qu'agir en fonction d'un principe qu'il a lui-même établi. Je le lis. « Quand bien même j'aurais dit au juste qu'il vivrait, si fort de sa droiture, il se met à commettre le mal. On ne tiendra plus compte de toute sa droiture et il mourra à cause du mal qu'il aura commis. Et quand bien même j'aurais dit au méchant « tu vas mourir », s'il abandonne ses fautes et fait ce qui est droit et juste, il vivra. On ne tiendra plus compte de tous les péchés qu'il a commis, puisqu'il a fait ce qui est droit et juste, il vivra. » Fin de citation. Les habitants de Ninive ne sont pas épargnés définitivement. Leur jugement est seulement différé afin de montrer à son prophète et à Israël que l'Éternel est aussi le Dieu des païens et que parmi ceux-ci, il pourra, quand il le trouvera bon, créer un peuple bien disposé qui lui appartienne. Comme je l'ai déjà dit, la repentance des Assyriens avait pour seul but d'éviter le châtiment divin. elle n'a eu aucune répercussion sur la vie de la nation. Cependant, cet empressement des habitants de Ninive à s'humilier devant l'Éternel montre qu'il y avait quelque chose de bon chez eux et qu'ils n'étaient pas encore mûrs pour le jugement. Pour ces raisons, Dieu leur fait grâce pour le moment. Mais quelques 150 ans plus tard, quand la mesure de leur faute sera à son comble, la ruine qu'annoncera bientôt le prophète Nahum s'accomplira par les forces conjuguées des Mèdes et des Babyloniens qui prirent Ninive et la détruisirent. Certains théologiens d'obédience libérale rejettent l'historicité des événements du livre de Jonas parce que la repentance des Assyriens n'est pas mentionnée dans les livres des Chroniques ou des Rois de l'Ancien Testament. Mais cette omission n'a rien d'étonnant car les rédacteurs des livres historiques ne se préoccupaient pas de ce qui se passait dans les nations païennes, sauf lorsque ces événements concernaient directement les fortunes de Juda ou d'Israël Nord, et qu'ils faisaient partie des archives nationales de l'un des deux royaumes. Il aurait en effet été étrange de parler d'événements qui s'étaient déroulés en Assyrie chez un peuple aussi éloigné et qui, de plus est, n'avaient pas été enregistrés dans les annales officielles des rois israélites. Avant d'aborder maintenant le quatrième chapitre du livre de Jonas, il est intéressant de remarquer le parallélisme qui existe entre le premier et le troisième chapitre. En effet, dans les deux cas, devant une situation de péril, les marins puis les habitants de Ninive réagissent pour essayer de sauver leur peau. Ensuite, on assiste à l'intervention du capitaine du bateau puis du roi de l'agglomération de Ninive. Ensuite, les marins puis les Assyriens font tout ce qui est en leur pouvoir afin d'avoir la vie sauve, ce qui inclut invoquer la miséricorde divine en espérant que peut-être ils ne périront pas. Enfin, dans les deux cas, Dieu leur fait grâce. Le chapitre 4 du livre est comme un post-scriptum à l'histoire parce qu'à la fin du chapitre 3, la mission que l'Éternel a confiée à son prophète a été bien remplie et couronnée de succès. Si, suite à une de mes prédications, toute une ville ou région s'était repentie en invoquant l'Éternel, j'aurais envoyé un message à tous les croyants que je connais pour qu'ils se réjouissent et louent Dieu avec moi. Mais pas Jonas. Il vient d'être l'acteur de l'un des plus grands mouvements de réveil spirituel qui a jamais eu lieu sur la terre, mais au lieu de se réjouir, il en est malade. Et si je venais à féliciter Jonas pour son action, il me fusillerait du regard tellement il est furieux. Le texte dit « Mais cela déplut grandement à Jonas qui se mit en colère. » Verset 1. Le mot « mais » établit un contraste entre la compassion de Dieu et la dureté de cœur de Jonas, entre Dieu qui se détourne de sa colère et Jonas qui est grandement mécontent. L'auteur utilise une fois encore le mot « grand ». Si je ne me trompe pas, il apparaît 13 fois dans le texte hébreu. Ce passage ne précise pas la raison de la colère de Jonas. Mais la suite du récit montre que l'Éternel l'a informé qu'il avait pardonné aux habitants de Ninive. La réaction de colère du prophète est due au fait, d'une part, que sa menace ne s'est pas réalisée et il en est vexé, et d'autre part, que sa crainte initiale est confirmée. Les Assyriens repentants ont droit à la grâce de Dieu alors qu'ils se sont déjà montrés hostiles envers les Israélites. Les Juifs voulaient la miséricorde de Dieu, mais pour eux-mêmes seulement. Ils faisaient bon marché des païens qu'ils vouaient sans pitié au châtiment divin. Tout au long de ce récit, les païens, qu'ils soient marins ou habitants de Ninive, sont peints sous un jour favorable. ce qui les rend sympathiques au lecteur, tandis que Jonas apparaît toujours comme le vilain. Il est comparable à un enfant capricieux à l'humeur changeante. D'abord, il désobéit carrément à l'ordre de l'Éternel. Ensuite, dans le poisson, il lui rend grâce pour sa miséricorde. Puis il obéit promptement. Et maintenant, il est profondément découragé et fâché contre Dieu. Je continue le chapitre 4. Jonas adressa cette prière à l'Éternel. « Ah, Éternel, je l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays, et c'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis, verset 2. » La dernière fois que Jonas a prié, il était dans le ventre d'un animal marin. Maintenant, il est hors des limites du triangle de Ninive. Il est monté sur les collines qui se trouvent à l'est et a installé son camping-car au bord du désert ou quelque chose comme ça, et on peut lire sur son visage qu'il est complètement abattu. Dans sa prière, il expose clairement la raison pour laquelle il avait décidé de fuir à Tarsis en Espagne plutôt que d'aller à Ninive en Mésopotamie. Son nationalisme l'empêchait d'accepter que Dieu fasse grâce à la puissance ennemie de son peuple, le royaume israélite des 10 tribus du Nord, parce qu'un jour les Assyriens le détruiraient. Si, dès le début du livre, Jonas avait révélé ses motivations, le lecteur aurait peut-être partagé son point de vue. Mais l'auteur a œuvré de façon à ce que le lecteur éprouve de la sympathie, d'abord pour les marins païens et ensuite pour les habitants de Ninive. À ce stade du récit, on ne peut plus approuver Jonas parce qu'il opère selon le principe rotor de deux poids, deux mesures. En effet, il a bénéficié de la grâce de Dieu qui l'a sauvé de la noyade et il trouve normal que l'Éternel ait de la miséricorde envers les Israélites, mais il la refuse aux Assyriens. Je suis prêt à le déclarer coupable, mais l'Éternel va au contraire essayer de l'amadouer et de le raisonner gentiment. Heureusement que Dieu, lui, est plein de grâce et de compassion, lent à se mettre en colère et riche en amour, et qu'il renonce volontiers aux menaces qu'il profère.